Nous en sommes donc arrivés au troisième chapitre de ce point, de cet exposé sur la Laudato Si et le développement philosophique et théologique que j'en fais. Voici le plan à nouveau. Vous voyez très bien les trois parties et nous allons maintenant avec Heidegger penser la limite et la notion de ménagement. J'emprunte à Heidegger, en effet, ces deux concepts, l'un et l'autre, éclairant notre manière d'être au monde. Heidegger a aussi cette belle expression, et nous ne sommes pas dans le monde, hein, comme les affaires sont dans le tiroir, mais nous sommes avec le monde, nous sommes au monde, c'est-à-dire nous sommes en lui, avec lui. Et il faut donc s'y accorder. Il y a, de fait, dans la pensée de Heidegger, peu d'auteurs l'ont souligné, mais il y a une sorte de pensée pré-écologique. Vous voyez, ce serait quand même beaucoup lui prêter que de dire qu'il était écologiste avant l'heure. Mais il y a quand même des éléments grâce auxquels nous pouvons penser. J'en emprunte deux, et deux seulement, la notion de limite en quatre points, puis la notion de ménagement. Le premier point, c'est que nous sommes dans un monde limité, que voulez-vous, le nôtre. Or, ceci, figurez-vous, est une invention récente. Invention, bien sûr, au sens archéologique du mot. Vous savez bien, on invente un site quand on le découvre et quand on en fait l'inventaire. Le site était là, bien sûr, et depuis belle lurette. Hein. Mais sauf qu'on le découvre un jour, eh bien on dit on l'invente un site. De même, la réalité limitée de notre monde est depuis toujours. Mais nous commençons seulement à le découvrir. Il n'y a pas de plan B. Les récits de science-fiction qui en parlent ont d'abord, il faut quand même le rappeler, ont d'abord pour thème l'exténuation de notre planète et de son contenu humain. Et donc ne rêvons pas d'un plan B. De même, nous découvrons enfin que les ressources naturelles ne sont pas sans limite. Sagesse de la contrainte, peut-être. Il nous faut apprendre à user des ressources de la nature sans abuser ni épuiser les réserves naturelles. Nous sommes, depuis quand même maintenant 25 ans, nous sommes en marche vers la compréhension de tout cela. Mais nous sommes aussi aux limites de l'épuisement de notre terre. Il était temps de s'en rendre compte. Second point, sur le mot « limite », seconde explication, même si ce n'était pas urgent, comme je viens de le rappeler, urgent pour des raisons vitales, il nous faudrait quand même apprendre à limiter nos besoins, à limiter nos appétits. Et ceci pour des raisons philosophiques et pour des raisons théologiques. C'est ce que la vertu de tempérance nous enseigne depuis toujours. Tempérance, frugalité, simplicité. Vertus pour lesquelles il faut s'équiper d'une autre vertu, la force, pour ne pas céder à nos caprices, à nos envies, à nos cultures de consumérisme. Bref, il nous faut de la force, de l'entraînement pour réformer nos habitudes et aller enfin vers le plaisir et non la saturation. Vous voyez, cette espèce de boulimie consumériste va vers la saturation. C'est déshumanisant, c'est dégradant, ça n'est pas plaisant, c'est gavant. Voilà, le vrai plaisir est dans une forme de tempérance. Cette ascèse est un bien purement gratuit avant d'être indispensable pour garder la vie en ce monde. C'est-à-dire promouvoir cette ascèse n'est pas d'abord parce que c'est urgent, mais d'abord parce que c'est vital, c'est-à-dire c'est la vraie vie. Avant de se vendre comme régime amaigrissant, c'est une philosophie de la vie avec un grand V, un art de bien vivre, un goût pour la vie bonne. Et la vie bonne, ce n'est pas la vie gavée. Troisième point, Heidegger dit ceci, c'est très important, c'est dans le tout dernier Heidegger, la limite n'est pas ce où quelque chose cesse, mais bien ce à partir de quoi quelque chose commence à être. Ça, c'est très intéressant, notamment pour notre écologie contemporaine. Le monde commence, quand nous nous rendons compte que tout ça est limité. Simple sagesse de l'éducateur, hein, la limite édifie. L'absence de limite ruine l'existence humaine. De même, vous savez, on pourrait dire, il est faux de dire « moi je suis un homme universel ». Non, non, nous sommes de quelque part, nous ne sommes pas de partout. Et ça, c'est extraordinairement édifiant. Le lieu où nous habitons est limité. Et c'est ce qu'on appelle la grâce du chez-soi. Voilà, habiter demande un espace limité. Sinon, il n'y a plus de chez-soi, nous n'habitons plus à proprement parler, nous sommes errants, vagabonds. Alors, j'ai écrit un livre sur le propos qui s'appelle « Habiter ». Donc, je vous y renvoie pour beaucoup plus d'informations. On pourrait se demander aussi, on est toujours dans le troisième point hein, de cette notion de limite, pourquoi vouloir chercher à dépasser nos limites ? Vous savez que c'est une sorte de maître mot dans les entreprises, chez les sportifs, dépasser ses limites. Mais pourquoi ? Connaître nos racines est beaucoup moins nocif. Avoir une limite, des limites, c'est avoir une consistance, une forme. Être sans limite, c'est être difforme. Voici ce que dit Hadjadj dans la revue Limite, le premier numéro de la revue Limite, une revue d'écologie. Voici ce qu'il dit. La perfection n'est pas dans un perpétuel dépassement de soi, qui justement laisserait le soi derrière afin de mettre le moi en avant et ses mérites sans grâce. Voyez, en effet, il y a une espèce d'obsession de soi dans cette boulimie, dans ce désir invraisemblable d'aller toujours au-delà des limites. Quatrième point. La limite, pourtant, donne à espérer. Elle donne à penser un au-delà. Hein. Aristote distingue péra et péri. Et péri, périphérique, c'est ce qui clôt. Et péra, c'est ce qui clôt aussi. Mais c'est un mur en tant qu'il demande à être franchi. Une frontière, dit Grenze, si vous voulez. Il y a quelque chose derrière. Non qu'il faille sans cesse croître, augmenter, s'étendre, tel un cancer. Mais la limite, en effet, appelle. Elle suscite et elle éveille. Elle appelle deux choses. La première chose qu'elle appelle, la limite, hein, bah c'est la complémentarité. Nous avons absolument besoin des autres, et pas uniquement dans un rapport utile, mais dans un rapport humanisant, existentiel, la complémentarité. La limite appelle le complément. Le commerce, de ce point de vue, et au sens haut du terme commerce, le commerce engendre et appelle par nécessité la paix, la règle, l'accord. Et que de vertu sociale dans le commerce, voyez, au sens noble du mot. Eh bien, nous devons avoir commerce avec la terre. Il faut la prendre comme un partenaire. Et non pas la sanctuariser, hein, comme font certains, vous savez, dans des espèces de pseudo-religions qui en ce moment sont en train de tout envahir. La paix n'est pas dans le chacun chez soi, dans le tout pour moi, mais évidemment dans le commerce, dans le lien, ou dans l'entretien, si vous voulez, l'entretien au sens de Lévinas du terme. Je vous ai dit que la limite appelle deux choses, donc la première c'est ça, c'est le commerce, la complémentarité. La seconde chose que ça appelle, eh bien la non-satisfaction laissée par la limite n'a pas à déclencher une boulimie, une sorte d'appétit, de dévoration et d'acquisition, mais elle invite à aimer l'infini. Non pas un infini à conquérir, encore une fois, mais un infini auquel on s'apparente, pour lequel on a du goût. Et c'est comme le dit encore Hadjadj, s'il n'y a pas de limite, il ne peut pas y avoir de changement d'ordre. Et la limite appelle autre chose. La limite est autre chose. L'au-delà, voyez, comme on dit si bien. Sinon, si on reste dans la dévoration, on rapporte tout à soi. Et donc l'infini est appel d'un autre dans lequel nous n'allons pas nous perdre. Mais c'est un infini qui nous complète et qui nous dit ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de désir. Donc voilà, vous voyez, une méditation à base de Heidegger, une méditation sur l'être limité. Le deuxième mot de Heidegger, voici le plan à nouveau, hein, c'est le mot « ménager ». Le ménagement est une notion liée chez Heidegger à la question de l'habitat. C'est pourquoi mon lexique sur l'habitat revient souvent là, dans ce petit paragraphe. Il dit d'ailleurs de l'habitat que c'est le trait fondamental de l'habitation qui est le ménagement. Ménagement. Habitation ne veut pas dire seulement avoir un logement, bien que nous sachions tous combien c'est primordial dans notre humaine condition. Habitation veut dire façon d'être au monde. C'est comme on dit, j'habite bien mon métier, j'habite mon corps, etc. Et donc, habitation, c'est un art d'être au monde. Nous pouvons être de véritables prédateurs, ou bien juste des profiteurs inconscients qui salopent tout, ou bien en quête de sensations fusionnelles, comme dans les nouvelles religions des années 70, ou encore des sensations captatrices. On veut faire des expériences nouvelles, des sports extrêmes, ou bien encore opter pour la résonance dont je vous parlais il y a peu avec Hartmut Rosa. Habiter, c'est un type de comportement à l'égard des choses, des gens et de l'alentour. À l'égard, et non pas à l'encontre. Et c'est très important, hein. Petite nuance lexicale qui dit beaucoup. Et Heidegger donc propose le ménagement. Je vous le développe ça, mais sans m'en tenir strictement à cette auteur, hein, cette fois-ci. Donc en trois points. Premier point, ménager veut dire épargner. Mais en quoi l'habitat donne-t-il à l'homme d'être épargné ? Bah, d'abord de l'errance, bien sûr, du vagabondage, du nomadisme, qui est probablement le pire pour notre humaine condition. Être de quelque part est une sorte de nécessité ontologique. Mais demeurer quelque part, c'est prendre part au monde. Goûtez bien cette expression. Prendre part au monde. Non pas comme une propriété, prendre une part, mais comme appropriation, ce lieu m'est propre. Je suis de ce lieu. Ce lieu est mien. Moi et ce lieu, nous consonnons. Entre lui et moi, entre cette terre et moi, il y a une connivence identitaire. Le lieu fait, comme disent les philosophes, mon ipséité, c'est-à-dire ce que je suis, ma terre natale. Plus simplement, on peut dire qu'il faut bien être de quelque part pour être bien. Et appropriation n'est pas, dans ce cas, mettre la main dessus, mais c'est admettre et mettre en œuvre le fait que les lieux qu'on habite ne sont pas des endroits quelconques, de simples logements, mais qu'entre le lieu et nous, une édification s'établit. Regardez le nombre de Français qui se disent bretons, auvergnats, corses, ou bien de telle ville, ou bien qui préfèrent tel ou tel lieu de villégiature que tout autre au monde. En fait, nous bâtissons des maisons, mais nous sommes bâtis. C'est un jeu de mots également de Heidegger. Nous sommes bâtis par les lieux que nous habitons. Par la demeure, nous sommes sauvés de l'errance, certes, mais aussi nous sommes épargnés de la dispersion affairée. Vous savez, tout à l'heure on parlait de l'accélération, de la fluidité des choses. Eh bien, le chez-soi nous apaise, nous repose. L'affairement, la dispersion, c'est cet activisme accéléré qui met à sac autant l'être singulier que je suis, que nos familles, que l'alentour, qui en subissent alors les effets polluants. Il y a une véritable vertu du repos, du recueillement, dans ce ménagement. Ménageons-nous d'habiter. Ménageons notre manière d'être au monde. Le second point, ménager, chez Heidegger, veut dire aménager. Comme, presque comme en français, avec le jeu de mots que permet le français, l'allemand le permet aussi. Ménager ne veut pas dire laisser faire les choses, mais plutôt tempérer notre usage des choses. Sinon, on les épuise. Voilà ce qui se rapproche, vous voyez, à notre thème, Laudato si. Et dans le manque de tempérance, nous nous épuisons de même, par gavage, par boulimie, par idiotie, par prétention. Mais ménager veut encore dire protéger, préserver, comme on se ménage du temps libre. Et même, ça veut dire garder, avoir sous sa garde. Heidegger parlera de l'homme en le nommant le gardien de l'être, vous savez peut-être. Nous avons sous notre garde la terre, j'en parlais tout à l'heure avec Genèse 1. Nous avons sous notre garde la terre et les choses qui l'habitent. Véritable responsabilité de communion, de consonance, de soin, comme pour le jardin d'Éden. Entre aménager et ménager, il y a donc une sorte de tension. Ici s'ouvre une réflexion sur notre estime des choses et de la terre. Il y a un instant, je parlais d'appropriation en l'orientant vers ce qui tisse ma personne singulière. Or, il y a, est-il utile de le préciser, une appropriation nocive, celle qui nous laisse croire que les choses sont à notre disposition, que puisqu'elles sont nôtres, nous en faisons ce que nous voulons, c'est nocif. Car alors, c'est alors un permis d'exploiter que nous nous sommes octroyés. Non, les choses, ni la terre, ni notre corps, ne sont nos biens. Nous n'avons pas à faire main basse dessus. Nous n'avons pas un corps comme nous avons un objet, avec lequel nous pourrions faire ce que nous voulons. Nous n'avons pas des enfants avec lesquels nous faisons ce que nous voulons. Les choses ne sont pas à notre disposition. Alors vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons être au front, nous autres chrétiens. Nous ne pouvons pas disposer des choses, de la terre, des autres, de nous-mêmes, comme nous voulons. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, pourrions-nous dire, en reprenant le psaume 115, mais à toi, nous ne sommes que les gardiens. Il y a là, vous voyez, une véritable conversion écologique radicale. Elle se fait à l'égard des choses, à l'égard de la terre, à l'égard de nous-mêmes. Dès lors, l'aménagement, l'action que j'ai sur les choses et avec elles consiste à les faire servir. Quand nous usons des choses, nous ne les asservissons pas, nous les faisons servir. Et tout ce qui sert grandit, ce qui ne sert pas décroît. Nous pouvons même croire que c'est dans la nature des choses que de servir, que de se servir mutuellement. C'est la joie des vivants que d'œuvrer en communion. Le troisième point, laisser les choses, laisser la terre, laisser les vivants exhaler leur poésie. Quelle drôle de déclaration, c'est très heideggerien. Je vais vous donner une petite citation de Wittgenstein qui peut-être va vous aider à comprendre, bien qu'elle nous laisse très perplexes, vous allez voir. Pour percevoir le monde, encore faut-il lui accorder du crédit. Il faut croire en lui plus qu'en mon idée. D'où cette citation, ouais, de Wittgenstein. Est-ce que cela a un sens de montrer et de questionner un groupe d'arbres ? Comprends-tu ce que dit ce groupe d'arbres ? Il faut croire en lui plus qu'en mon idée. Ce qui est vrai, évidemment, pour les rapports à autrui, c'est évidemment vrai, éminemment vrai, mais ça l'est donc aussi à l'égard de la terre. Heidegger dirait « laisser les choses dans leur être », c'est-à-dire ne pas les réduire à l'ustensilité, c'est-à-dire ne jamais faire des choses, du monde, des outils. Je vous cite ici trois auteurs qui permettent de vivre avec les choses, avec la poésie des choses, hein, ce que Heidegger promeut beaucoup aussi, Stanislas Breton, évidemment le grand Gaston Bachelard avec ses rêveries de la terre, et Francis Ponge avec le parti pris des choses. Ce peut-être, vous savez, cette manière de poétiser les choses, de les laisser développer ce qu'elles ont à dire, ce peut-être une vraie philosophie de l'existence que beaucoup aujourd'hui nomment l'émerveillement. Eh bien, c'est à peu près de la même chose qu'il s'agit ici. Il s'agit de déceler et de laisser venir la simple beauté de la banalité. Non pas le grandiose, l'époustouflant, mais la poésie. C'est pareil dans nos existences. Voyez. Pas de grandiose dans nos existences, pas de brillante carrière, mais de la poésie, de l'embellissement des simples choses. Il y a forcément dans les activités humaines une part de techné, de savoir-faire, de transformation des choses vers autre chose. Il y a aussi une part de praxis, c'est-à-dire l'œuvre qu'on construit, mais il y a une part de poème, poésie. Et là, j'utilise les trois lexiques grecs pour dire travail. Et techné, praxis, poios. Eh bien, nous oublions trop cette part de la poésie. Le faire de notre action est également poésie. Faire monter, laisser monter la poésie des choses. C'est la part la moins bien servie dans notre monde d'efficacité. Mais c'est cette part qui sauvera la banalité de la médiocrité. C'est cette part qui sauvera la beauté du monde et emplira de joie nos vies. Et donc, le troisième maître mot hein, de cet enseignement, à la suite de Laudato si, après tout est lié, puis tout est confié, voici maintenant, et pour conclure, tout est fragile. Voilà, merci et à la semaine prochaine.